La midinale, la matinale libre, curieuse et impertinente de Radio Piquet.
Alors on est lundi 11 novembre et c'est la midinale sur Radio Piquet. On est presque à l'heure.
Yeah.
Et aujourd'hui il y a Steph, salut. Thibaut, Nico, allô. Pierre,
yo.
Et moi c'est Kat. Salut. Je serai plus trop disponible les prochains lundis. Je vous écouterai avec plaisir si je peux ou en podcast. Alors c'est la revue de presse. On revient sur des actualités. Il y a un étudiant qui s'est immolé la semaine dernière à Lyon.
Ouais, c'était vendredi 8 novembre. Et en fait, là, on va lire la lettre qu'il a laissée avant de s'immoler. Et c'est publié sur le site Rebellion. Donc c'est un site d'info, réseau Moutou de Lyon. Donc je lis la lettre de l'étudiant. Donc on a regardé ce matin, il n'y avait pas tellement de nouvelles. Il est brûlé à 90% et entre la vie et la mort, comme ils disent, mais brûlé à 90%, voilà. Alors je vais lire sa lettre. « Bonjour. Aujourd'hui, je vais commettre l'irréparable. Si je vise donc le bâtiment du Crous à Lyon, ce n'est pas par hasard. Je vise un lieu politique, le ministère de l'Enseignement supérieur et la Recherche et par extension le gouvernement. Cette année, faisant une troisième L2, je n'avais pas de bourse. » Et même quand j'en avais, 450 euros par mois, est-ce suffisant pour vivre? J'ai eu de la chance d'avoir des personnes formidables autour de moi, ma famille et mon syndicat. Mais doit-on continuer à survivre comme nous le faisons aujourd'hui? Et après ces études, combien de temps devrons-nous cotiser, travailler, pour une retraite décente? Pourrons-nous cotiser avec un chômage de masse? Je reprends donc une revendication de ma fédération de syndicats aujourd'hui avec le salaire étudiant et d'une manière plus générale le salaire à vie, pour qu'on ne perde pas notre vie à la gagner. Passons à 32 heures de travail par semaine pour ne plus avoir d'incertitude vis-à-vis du chômage, qui conduit des centaines de personnes comme moi chaque année à ma situation et qui meurent dans le silence le plus complet. Luttons contre la montée du fascisme, qui ne fait que nous diviser et créer, et du libéralisme qui crée des inégalités. J'accuse Macron, Hollande, Sarkozy et l'Union européenne de m'avoir tué. En créant des incertitudes sur l'avenir de tous, toutes, j'accuse aussi Le Pen et les éditorialistes d'avoir créé des peurs plus que secondaires. Mon dernier souhait, c'est aussi que mes camarades continuent de lutter pour en finir définitivement avec tout ça. Vive le socialisme, vive l'autogestion, vive la sécu, et désolé pour l'épreuve que c'est. Au revoir. Et donc, il y a sur le site de Rebellion, c'est un communiqué de solidaire étudiant Lyon, donc qui a écrit un texte aussi. Donc, la précarité détruit nos vies. Depuis hier après-midi, un de nos camarades et amis est entre la vie et la mort à l'hôpital. En grande précarité financière, privé de bourse, désespéré, il s'est immolé par le feu devant le bâtiment du Crous de Lyon. Nous n'avons pas suffisamment de mots pour crier notre douleur et notre tristesse. Notre dégoût aussi, à l'égard de ces institutions qui l'ont poussé à l'irréparable, comme il l'a expliqué dans un message poignant. Car ce sont bien ces institutions inhumaines, cette précarité, cette violence trop commune que l'État et l'université exercent contre les étudiants et étudiantes, dans l'indifférence générale qui ont guidé son geste, profondément politique, acte désespéré, mais aussi et surtout, geste de lutte contre un système fascisant et raciste qui broie. Elles sont à ce titre responsables et coupables. Nous pensons à lui, à ses proches, amis et à sa famille. Nous attendons et espérons sa rémission pour retrouver parmi nous et dans nos luttes ce camarade et son sourire, syndicaliste impliqué, toujours prêt à aider les autres, chaleureux, humain. Pour reprendre son message, vive le socialisme, vive l'autogestion, vive la sécu, nous t'aimons. Et donc, ils appellent à une manifestation. Demain, je ne retrouve pas le... T'as la date, Nico ? Pardon. C'est demain, devant le bâtiment du Crous, à 10h, mardi 12. Donc, devant le bâtiment du Crous de Lyon.
Non, pas de réaction.
Bon, qu'est-ce que tu veux ? Si, peut-être dire que dans un premier mouvement, dans une première réaction, je sais pas, là maintenant, ils sont remarquablement silencieux, mais les premières réactions de l'académie, ça a été de dire « cet étudiant ne s'est pas signalé auprès de nous, on n'est pas responsable, quoi. »
Ok.
Ils sont aujourd'hui relativement silencieux par rapport à ça.
Ok. Je crois que c'est Nico qui voulait nous donner des noms. T'as besoin ça. D'avoir un...
J'ai besoin d'avoir ordi,
du ça. Matériel. Est-ce que t'as besoin de faire ta recherche, j'imagine, aussi. Donc, Nico, en tout cas, voulait nous donner des nouvelles de Marseille.
Sinon, le temps que tu trouves, je peux enchaîner sur le monde diplomatique.
Vas-y, enchaîne.
En fait, c'est juste rapidement... Je ne sais pas si ça a pu passer inaperçu, mais il y a deux jours, on était le 9 novembre 2019. Et du coup, le 9 novembre 2019, on fêtait les 30 ans de la chute du mur de Berlin. Et avec ça, c'était une jolie fête. Hein, ils s'étaient tous rassemblés là, pour raconter leurs souvenirs, dire qu'il y avait un super violoncelliste qui avait joué au pied du mur... que c'était la fin du fascisme, que c'était merveilleux. On a perdu le technicien. Ah non, c'est moi. Pierre était enfermé. Et donc, bref, que c'était vraiment super et que les gens en RDA découvraient la démocratie et tout ça. Et en fait, dans l'ensemble des articles qui ont été publiés, il y a le monde diplomatique qui a fait sa une avec un titre qui est « Allemagne de l'Est, histoire d'une annexion ». Et ce titre-là, il a fait péter les plombs à pas mal d'éditocrates. Faut entendre Daniel Cohn-Bendit péter un câble et dire que c'est d'une stupidité incroyable, c'est pas possible, mais qu'est-ce qu'ils ont fait, mais pourquoi ils disent ça ? Y a aussi Jean-Michel Apathy qui dit qu'il souhaite rappeler l'essentiel. Pour lui, l'essentiel, c'est les Allemands de l'Est découvraient la liberté, leur régime était haïssable. Et il souligne que pour le monde diplomatique, c'est quand même une inquiétante lecture de l'histoire. Donc, quand on lit l'article du Monde Diplo, il n'y a pas qu'un seul article hein, sur cette idée dans le Monde Diplo du mois de novembre. Ils expliquent en fait comment c'est pas deux États qui se réunifient ou qui se rassemblent, mais comment en effet c'est bien une annexion. Et c'est le ministre de l'Intérieur de la RFA et futur ministre des Finances d'Angela Merkel qui ne le disait pas autrement en 90. Il disait « Il s'agit d'une entrée de la RDA dans la République fédérale et pas du contraire. Ce qui se déroule ici n'est pas l'unification de deux États égaux. » Et en réalité, c'est ça que Pierre Rimbert, dans son article, et c'est pas très sympa, j'ai oublié, ils sont deux à l'écrire, et Rachel Knaebel écrivent dans « Allemagne de l'Est, histoire d'une annexion ». C'est comment... comment déjà c'est pas un mouvement spontané et que ça a été préparé politiquement, enfin que c'est pas sorti de nulle part d'un grand moment où d'un seul coup les gens dans la rue sont descendus pour dire on veut rentrer dans le système capitaliste, c'est pas ça qu'ils demandaient. Comment c'était pas non plus la réunification qu'ils demandaient au départ, c'était un autre régime qu'ils demandaient, ils demandaient la fin. C'est les premiers bâtiments auxquels ils s'en sont pris, c'est les bâtiments de la Stasi. Donc ils demandaient la fin du totalitarisme communiste. Mais à aucun moment, ils demandaient autre chose que du socialisme. Et en fait, c'est ça que les éditocrates là supportent pas et qu'ils veulent surtout pas qu'ils se disent, c'est que c'est le capitalisme qui a gagné, un libéralisme qui a fait très très mal à l'Allemagne de l'Est. C'est par exemple, ils rappellent... Qu'aujourd'hui, dans l'Allemagne d'aujourd'hui, il y a il disait 202 personnes qui sont haut gradées dans l'armée en Allemagne. Il n'y en a que deux qui viennent de l'Est. Comment, dans les gens qui dirigent l'Allemagne réunifiée aujourd'hui, ils viennent tous de l'Ouest. Par exemple, et c'est un exemple à la con, mais non d'ailleurs, comment il n'y a plus de clubs de foot de D1 qui serait un club de foot de l'Allemagne de l'Est. C'est que l'Ouest. Et là-dessus, il y a un truc qui cache toute la réalité de la domination de l'Ouest sur l'Est, c'est Angela Merkel, qui, elle, effectivement, vient de l'Est. Mais c'est bien la seule. Et en gros, c'est ça que l'article du Monde Diplo, que les articles du Monde Diplo viennent dire. Et d'ailleurs, Pierre Rimbert, il a donné une interview pour Là-bas, si j'y suis. Et c'est une interview qui date d'hier ou d'avant-hier et qui dit « La réunification était bel et bien une annexion ». Bon, c'est dommage, c'est pas un article sur Là-bas, si j'y suis, c'est pas un article en libre accès. Mais c'est, à lire en tout cas, c'est une autre version, une autre lecture de l'histoire que celle qu'on veut bien nous rabâcher et celle avec laquelle on nous a assommés tout le week-end.
Ouais, pour essayer de résumer peut-être ce que je l'ai lu aussi, ce que tu disais au tout début, quoi, pourquoi il parle d'annexion, c'est vraiment parce que c'est... On peut considérer qu'il y a un État, donc une structure d'État, quoi, hein, des ministres, toute l'administration d'État, l'administration du capital d'État aussi, hein, mais, etc., qui a disparu et qui a été immédiatement colonisé, annexé, enfin, remplacé par l'État Allemagne de l'Ouest.
Mais et ça avec
donc la structure de l'État, par exemple, en quelques semaines passe de l'Allemagne de l'Ouest à l'ensemble du territoire allemand,
la monnaie,
etc.
Notamment. Il parle de l'utilisation de la monnaie qui était à l'Ouest en fait et qui a été d'un seul coup qui a inondé le pays, qui était la monnaie de référence, mais qui n'avait effectivement, enfin qui n'avait pas la même valeur. Ou comment d'un seul coup, c'est ce que tu dis, toutes les entreprises qui étaient des entreprises d'État en Allemagne de l'Est, ont été libéralisés. Et effectivement, ceux qui les ont achetés, ceux qui ont récupéré ces moyens de production, c'est des gens qui étaient à l'Ouest. Et c'est toujours le cas.
Ouais, et puis, voilà, après, donc, c'est un remplacement de tout ce qu'était l'État d'Allemagne de l'Est, et donc, qui comprend tout ce que tu disais, enfin, disons, une autre façon de vivre le monde, quoi. Qui a été disparu.
Et sauf que voilà, c'est le discours ambiant est celui de toute façon on y a droit tous les ans, hein, mais là c'était comme c'était les 30 ans, c'était puissance 30 quoi, enfin ou 1000 ou t'en sais rien. C'est vraiment les Allemands de l'Est en cassant le mur et ils renonçaient au fascisme et ils voulaient rentrer dans le monde libéral.
Ouais, à
libre.
Tel point qu'on a eu même droit, je crois que c'est Acrimed qui a relevé ça, le monde diplomatique a eu même le droit à sa place dans la revue de presse sur France Info de je sais plus quel tocard, là. Alors qu'évidemment il parle jamais de ce qu'il y a dans le monde diplo, pour dire que c'était trop de la merde. C'est 2 minutes de télé que je vous conseille, je crois que vous pourrez retrouver ça sur le site d'Acrimed, d'une belle mauvaise foi.
Ouais, il y a une phrase de Jean Quatremer, donc Quatremer, correspondant à Bruxelles pour Libération, qui, de son propre aveu, n'a pas lu l'article, mais juste le titre, une ignominie.
Ouais, le Monde Diplo a fait des montages des réponses débiles qu'ils ont eues à leur article, genre celle de Quatremer, là. Ça vaut le détour aussi.
Ouais.
Ouais, ça a l'air de remuer.
Ah ouais, mais de toute façon, si ça se mesure aux aigus de la voix de Cohn-Bendit, rien que ça, c'est génial, quoi. Faut l'écouter réagir. T'as l'impression qu'il va casser sa pipe, quoi. Enfin, c'est un truc, il va claquer, quoi. Parce que lui, il sait, en plus. Enfin, je veux dire, lui, il se pose comme celui qui connaît cette histoire et qui la maîtrise parfaitement. C'est drôle.
Ouais, c'est le récit mythologique du capitalisme, en fait, depuis les années 90. À l'époque, on parlait de fin de l'histoire, tout ça, là. Comme, comme, comme s'il y aurait eu une victoire de cette belle démocratie libérale, etc. Bon, c'est un récit mythique, hein, qui cache les réalités de ce qui se passe, en fait, de ce qui se passe, qui cache de comment ça s'est vraiment passé. Après, il ne s'agit pas de dire que c'était vachement bien l'Allemagne de l'Est.
Hein, non, mais
c'est juste que ça ne nous dit pas ce qui s'est passé. Ça nous raconte une belle histoire qui est complètement fausse.
D'un soulèvement qui serait venu naturellement de la population en marche pour aller vers sa liberté, quoi. Enfin, quand on voit ce que ça a donné.
Alors Nico, est-ce que tu as réussi à te reconnecter avec la plaine?
Ouais, c'était juste revenir. En fait, ça fait un an qu'à Marseille, il y a eu des effondrements d'immeubles qui ont causé des morts et voilà, qui ont provoqué par la suite des relogements dans des conditions assez inhumaines. Donc voilà, c'était juste redire ça. Ça fait un an que ça s'est passé. Depuis, bah, pas grand-chose. Il y avait une manif à l'appel de collectif qui se bouge là-bas samedi dernier. Donc moi, je vais vous juste lire un petit article de lundi matin qui revient là-dessus. Donc Marseille, un an après l'effondrement des immeubles rue d'Aubagne. Donc voilà. Noailles, donc c'était à la rue de Noailles que ça s'est passé. Après, il faut le relier ça à ce qui se passe dans le centre de Marseille, là, à la Plaine. L'entreprise de gentrification de Marseille, bon voilà, relier ça à toute la corruption qu'il y a au niveau des élites politiques, etc. Donc il y a un an, les immeubles de la rue d'Aubagne se sont effondrés, un an que la Plaine est aux griffes des aménageurs et vigiles, presque un an que Zidem Redouane est morte, assassinée par la police. C'est juste rappeler que, donc ça c'était en décembre, il y avait eu des manifs. Et il y avait une femme âgée, Zineb Redouane, qui s'est pris un flashball dans la tronche, tiré de façon volontaire par les flics là, qui étaient dans la rue. Ils ont visé son immeuble et bam. Mais aussi un an d'une riche et forte agitation politique où la rue n'a pas cessé de faire entendre ses voix, un an de grande solidarité au pied des murs, un an d'un increvable mouvement de gilets jaunes, un an de forte répression pendant lequel la Legal Team travaille sans relâche, alors que chaque semaine draine son lot de manifestants au Baumettes. La question se pose partout au coin des rues, un an et après quoi? Le constat est amer, depuis les 8 morts du 5 novembre, donc suite aux effondrements, la peste dormante de l'insalubrité dans les quartiers pauvres de notre ville s'est relevée au grand jour. La peur s'est répandue, chaque fissure fait l'objet d'angoisses bien justifiées, et tout le monde ici sait qu'il n'en manque pas. Nombre des quartiers impactés sont dans le centre et sont des quartiers avec beaucoup de petits propriétaires et une population plutôt pauvre que mairie et promoteurs veulent voir dégager plus loin en banlieue. Les institutions publiques telles des maîtres illusionnistes ont su se ressaisir de cette affaire qu'ils ont créée de toutes pièces. À l'époque, ils disaient que les effondrements, c'est parce qu'il y avait eu trop de pluie. Depuis déjà de nombreuses années, des structures indépendantes dénonçaient l'insalubrité d'une bonne partie du bâti de la ville, mais les élus et promoteurs semblaient contracter une défaillance chronique de l'ouïe. Aujourd'hui, on peut se permettre de douter de ce diagnostic trop médical et il paraît évident que la raison de cette surdité provenait plus d'une stratégie de gestion urbaine des populations. De plus, pour couronner le tout, on trouve des élus quand on fouille parmi les propriétaires de ces logements insalubres. Il continuait à louer ses taudis sans scrupule, attendant patiemment le moment tant attendu de la grande colonisation par des populations respectables. Donc si vous voulez plus d'infos, allez voir sur le site de Lundi Matin, mais aussi sur Bastamag. Il y a des témoignages de gens qui ont été expulsés, ont été relogés comme on pouvait, dans des conditions assez pourries, qui ont tout perdu. Et ça n'a rien qui est avancé, donc voilà. Il y a eu une manif samedi, il y a des collectifs qui se bougent, donc affaire à suivre. Mais en tout cas, la situation est toujours pourrie, il fallait le rappeler.
Merci Nico. On fait une petite pause ?
Allez.
Qu'est-ce qu'on écoute ?
Ben, on va suivre les conseils de la snob, alors, je crois. Pour.
Ouais, écoutez Nina Hagen.
Ouais, en concert à Dortmund.
Allez.
Liza. is near, and so I face the final curtain. You can't, I'm not a queer. I switch my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full on each end, or every highway, yeah, yeah, and then. Much more than this, I did it more.